Merci beaucoup. Avant de commencer, si tu veux m'installer ma présentation, parce que je ne suis pas du tout Macintosh, donc je ne sais pas faire. Et en fait, le lien sera beaucoup plus facile à établir que prévu avec les présentations précédentes, puisqu'on va parler dans les trois cas, comme la présentation de Paul Dumas et puis celle de Caroline Tokarski, de lipides notamment, et de triglycérides spécialement. C'est tout à fait involontaire. Et puis les questions de protéines entières versus protéines découpées en peptides également seront abordées aujourd'hui. Alors, s'agissant de l'analyse toxicologique, donc le titre résume vraiment le fond de l'exposé, à savoir l'analyse toxicologique et spectrométrie de masse du poison à l'homme empoisonné. En effet, on a tous a priori dans l'idée que lorsqu'on fait une analyse toxicologique chez un patient, par exemple, ou sur un cadavre suite à un problème médico-judiciaire, on imagine très bien que c'est le poison qui va avant tout diriger notre étude. Et on verra qu'en réalité, même si c'est tout à fait vrai sur le plan historique et que ça demeure évidemment une nécessité absolue de caractériser les poisons et les polluants, par exemple, en toxicologie environnementale, il n'en demeure pas moins que l'essentiel, malgré tout, notamment en santé humaine, c'est quand même le patient, c'est quand même la maladie toxique. Et une fois qu'on aura caractérisé un poison, en fait, on n'aura fait que peut-être la moitié du chemin. Et aujourd'hui, je dirais que au XXIe siècle, il faut quand même s'interroger sur d'autres paramètres de la toxicologie que le poison. Alors pourquoi la chimie analytique a affaire avec la toxicologie? Eh bien tout simplement, depuis les fondements même du concept de toxique qui a été posé par Paracels au XVIe siècle, vous voyez qu'aucune substance n'est un poison en elle-même, c'est la dose qui fait le poison. Et donc Paracels, d'emblée, pose les bases de la quantification. Il ne s'agit pas seulement de dire qu'une personne a consommé telle ou telle substance, eh bien il faut aussi la doser, la quantifier, et pour cela, il faut pouvoir disposer d'outils analytiques. Alors on va faire un bond à travers les siècles. J'ai cru comprendre qu'il y avait des aspects historiques dans ce workshop, et je veux ici rendre hommage au professeur Orfila, qui a fondé la toxicologie moderne à l'école de médecine qui est rue de l'université, qui maintenant est partie intégrante de l'université Paris-Descartes, et donc titulaire de la chaire de toxicologie. Je peux imaginer que je suis quelque part un très lointain successeur du professeur Orfila, qui est un personnage absolument central en toxicologie, puisqu'il a fait les trois choses qu'il faut faire pour définir une discipline scientifique. Notamment, il a inventé le premier traité de référence sur les poisons tirés des règnes minérales, végétales et animales, ou toxicologie générale. Donc il a inventé le concept de toxicologie générale en rédigeant vraiment le traité de référence au milieu du XIXe siècle. Autre remarquable réalisation de Orfila, il a mis au point des méthodologies de tests de toxicité chez les animaux. Donc la toxicologie environnementale pour pouvoir anticiper les effets toxiques des substances en les extrapolant de l'animal vers l'humain. Donc la toxicologie expérimentale. Et puis, enfin, et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, Orfila également a mis au point des protocoles analytiques qui permettaient de faire, dans des contextes de procès, la preuve légale d'intoxication volontaire de nature criminelle. Et son principal fait d'arme est son expertise dans l'affaire dite de l'affaire Marie Capel, qui avait été accusée d'avoir assassiné son mari, M. Lafarge, à l'arsenic. Et donc ce procès s'est déroulé en 1840, et il se trouve que le professeur Orfila avait mis au point une technique de caractérisation de l'arsenic dans les prélèvements qui ont été faits sur le cadavre de la victime. Il a prouvé ainsi qu'effectivement ce cadavre contenait de l'arsenic. En tout cas, ce succès a été tel que Orfila, non sans quelque orgueil peut-être, a osé dire « Désormais, le crime sera poursuivi avec succès jusque dans son dernier refuge », donc sous-entendu grâce aux techniques analytiques. Alors là, quelques décennies, voire siècles plus tard, on va quand même modérer le propos. En fait, Marie Capel, que vous avez ici à droite sur ce dessin, avait coutume, son mari étant commerçant, d'envoyer par la diligence des gâteaux à son époux lorsque celui-ci voyageait. Et il se trouve que lorsque son époux est décédé, il est décédé à Paris, et un gâteau qui avait été envoyé par son épouse donc a transité par une diligence pendant 15 jours. Et au vu des symptômes qui ont été décrits lorsqu'on relit les minutes du procès, il semblerait qu'en fait, c'est davantage la consommation du gâteau avarié que de l'arsenic qui est conduit au décès de ce pauvre homme. Néanmoins, Marie Capel a été malgré tout internée et est décédée 12 ans après le procès. Donc, alors, évidemment, l'affaire Marie Bénard est incontournable dans un propos de toxicologie analytique. Hein. Là, ici, volontairement, j'indique l'échec des experts. Alors, pourquoi l'échec des experts? Parce que Marie Bénard a été innocentée. Nous allons considérer qu'elle était innocente. Elle était innocentée faute de preuves. Et ce qui a été dramatique dans cette affaire, notamment de la part des experts toxicologues de l'époque, c'est qu'il y a eu un nombre considérable d'erreurs qui ont été réalisées en termes d'échantillonnage, par exemple, des prélèvements sur les cadavres des supposées victimes, Il a été impossible de déterminer si l'arsenic retrouvé dans ces cadavres provenait des eaux de ruissellement de la terre du cimetière ou alors si cet arsenic avait été absorbé donc antémortem par les victimes, etc. Et bilan de l'opération, lorsqu'il a fallu même refaire dans le tribunal même, dans la salle du tribunal, un test de détection de l'arsenic sur un échantillon qui avait été proposé par l'avocat général, eh bien, il se trouve que ce texte a raté. Donc là, c'est, je dirais, le manque de fiabilité des méthodes analytiques qui, très clairement, a conduit, logiquement, à la conclusion d'innocence de Marie Pénard. Donc, évidemment, l'analyse toxicologique, c'est l'analyse du poison, cela le reste. Nous ne changeons pas de paradigme en 2014, on continue à faire cela tous les jours. Et pourquoi il faut continuer à analyser ces poisons et donc à développer les méthodes analytiques pour ce faire? Tout simplement parce qu'en toxicologie, notamment médico-légale, la caractérisation du poison et son dosage sont un élément essentiel constitutif de la preuve. Ceci est une obligation. En toxicologie clinique, qui est le domaine dont je vais vous parler peut-être davantage aujourd'hui, puisque cela me concerne quotidiennement, il est évident que l'identification du poison et éventuellement son dosage, le dosage n'est pas toujours nécessaire, mais l'identification du poison, en tout cas, l'est toujours. C'est un élément essentiel à la prise en charge du patient, parce qu'il est évident que si un antidote existe à tel ou tel toxique, eh bien, il faut l'utiliser, et par conséquent, il faut l'avoir caractérisé avant de choisir le bon antidote. Cela va de soi. Et puis enfin, en toxicologie environnementale, dont je vous parlerai plutôt vers la fin de l'exposé, qui vraiment est un domaine qui est un problème tout à fait contemporain, qui préoccupe considérablement nos sociétés, le grand public, mais aussi les autorités, eh bien, il est capital de pouvoir identifier des polluants environnementaux pour être en mesure d'évaluer le risque qui est lié à l'exposition à ces polluants environnementaux et ensuite pour pouvoir élaborer des politiques qui soient adéquates à la protection des populations. Alors, je vais revenir maintenant, je vais commencer par la toxicologie clinique, si vous voulez, qui est celle que l'on fait tous les jours. Alors, j'ai un très bon ami qui explique que Seveso n'a fait un mort, peut-être. L'accident, la fameuse usine de Seveso, il y aurait eu un mort. Bon. À la Riboisière, ce sont 1000 patients qui sont admis chaque année en intoxication grave et admis à ce titre au service de réanimation toxicologique et médicale. Donc, ce sont des gens qui, dans tous les cas, présentent au moins une insuffisance soit cardiaque, soit respiratoire, soit neurologique. Voilà. Et sur ces 1000 patients, il faut compter que nous subissons à peu près des pertes de l'ordre de 8%, donc 8% de décès des patients qui arrivent dans ces contextes-là de réanimation toxicologique. Donc les médicaments tuent. Alors pourquoi les médicaments? Puisque effectivement, ce sont essentiellement des interactions médicamenteuses délétères qui conduisent donc au problème d'intoxication. Et ces interactions médicamenteuses représentent 5% des hospitalisations à peu près, hein, des causes d'arrivée aux urgences notamment. Alors, qui sont ces patients? Eh bien, ce sont des patients qui souvent auront à essayer d'atteindre leur fin de vie, donc de se suicider. Et ces patients, souvent, utilisent des médicaments pour pouvoir mettre fin à leur jour, plus rarement des produits d'usage domestique. Mais ce qui est très, très important, c'est qu'en général, ces médicaments sont pris en mélange. En mélange, ce qui veut dire que le criblage toxicologique va être relativement complexe. Et il faut bien imaginer que les patients arrivent donc la plupart du temps inconscients, dans le coma, et par conséquent, on a très peu d'informations sur les conditions dans lesquelles les patients ont été intoxiqués. Et par conséquent, il est absolument crucial de réaliser un criblage ou un profilage toxicologique, si vous voulez, sur les prélèvements biologiques de ces patients, sang, urine et parfois cheveux également. Donc le couplage dans ce contexte-là de la chromatographie avec la spectrométrie de masse est vraiment l'approche de référence, et c'est pour cela qu'il y aura un lien évident avec ce qui vous a été présenté par Caroline Tokarski. Alors pourquoi chromatographie, spectrométrie de masse? Tout d'abord en raison de la spécificité. Il ne faut surtout pas se tromper de molécules lorsqu'on fait un criblage toxicologique. Si on se trompe dans le traitement, ça peut conduire évidemment au décès du patient. C'est gravissime, on a affaire à des patients qui sont très sérieusement atteints. La sensibilité est cruciale également. Bien entendu, il faut pouvoir être capable de doser et quantifier des composés qui sont en quantité minime dans les échantillons biologiques. La rapidité, évidemment, est un élément très important dans un cadre d'urgence. Donc, mon service est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous sommes le seul laboratoire de toxicologie sur le bassin parisien, donc 10 millions d'habitants à être contraints à ces disponibilités, il faut répondre en gros aux demandes en moins de 2 heures. Et puis le coût est très important aussi. Donc la cible, on parlait tout à l'heure du coût des techniques hospitalières, la cible, en d'autres termes, c'est une analyse en moins de 2 heures pour un coût inférieur à 2 euros réalisé par une personne qui n'a pas davantage que Bac plus 2. Voilà, c'est avec des 3-2, si vous voulez, qui est de plus en plus d'ailleurs pressante dans la mesure où vous connaissez les conditions financières des hôpitaux et de la sécurité sociale. Alors, quand on fait un criblage toxicologique sur un patient, nous avons donc un chromatogramme LC, avec une détection par spectrométrie de masse, et nous confrontons donc les valeurs des temps de rétention chromatographique et les valeurs de masse observées sur les spectres avec des banques de données. Et par exemple, ici, ceci, c'est un cas tout à fait réel d'un patient où on voit en fait la présence de quatre composés, la caféine, bien entendu, c'est quelqu'un qui boit du café, bon, ça, on le retrouve quasiment partout, ça nous sert d'ailleurs d'étalon interne, c'est très bien. Nous avons également un anesthésique local, la lidocaïne, que le patient a pris en mélange avec une benzodiazépine, le bromazépam en l'occurrence, qui apparaît sous trois formes. La forme princeps, tout d'abord, le pic numéro 4, et puis sous forme de deux métabolites également. Et je reviendrai sur la question des métabolites tout à l'heure. Et puis enfin, ce patient a pris également un antalgique, un opiacé de synthèse, qui est le dextropropoxyphène, qui vient d'être d'ailleurs récemment retiré du marché, vous le savez sans doute. Alors c'est très bien, nous avons des résultats, et donc nous communiquons instantanément à l'interne de garde ou au clinicien de garde, eh bien voilà, ton patient, il a pris ceci, cela, etc. Et donc, on peut imaginer que le clinicien puisse agir en conséquence et prendre en charge correctement son patient. Alors, c'est très efficace comme méthodologie. Ce n'est pas très cher. La chromatographie liquide et spectro de masse, ça ne coûte rien du tout en consommable par rapport aux kits immunologiques dont on parlait tout à l'heure, qui sont très importants en clinique, bien sûr. C'est efficace, mais ça présente un certain nombre de défauts. Tout d'abord, les molécules recherchées sont généralement les molécules qui sont intrinsèquement les plus toxiques. Forcément. On va toujours rechercher la digitaline, par exemple, on sait que c'est très toxique. On va rechercher la colchicine, c'est très toxique. Sauf que des intoxications à la colchicine, il y en a une dizaine par an, à la digoxine un peu plus peut-être. Et on ne va jamais rechercher les molécules les plus prescrites, les plus anodines. Hein ? La metformine, par exemple, qui est consommée par 1 million de personnes en France comme traitement du diabète, ça, on ne va jamais aller doser des choses comme ça. Est-ce qu'on a raison ou tort ? Il faut quand même se poser la question. Il faut se poser la question parce que les intoxications que l'on observe à l'hôpital sont de plus en plus le fait donc de polyintoxications. Une Marilyn Monroe qui va décéder en prenant une dose massive de Gardénal, ça ne se rencontre plus jamais aujourd'hui. On n'a plus jamais ce genre de choses parce que, évidemment, en termes de prescription, maintenant on prend des précautions particulières, en termes de conditionnement des médicaments également, une boîte de paracétamol, ce n'est pas plus de 3 grammes ou 4 grammes. On n'a plus des boîtes considérables. Donc on fait attention. Et les gens, en général, de leur pharmacie, ils ont un grand nombre de médicaments différents, mais chacun en petite quantité. Donc en fait, ils vont prendre tous ces médicaments à dose thérapeutique. Et ce qui va poser problème, ce sont donc les interactions entre ces molécules, et ce sont ces interactions qui vont causer les toxicités. Et donc ce sont les molécules mères qui vont être recherchées le plus souvent, évidemment. On va rechercher le bromazépam, mais rarement les métabolites. Alors ceci est embêtant parce qu'une personne qui vient juste de s'intoxiquer, la molécule mère sera en très forte concentration. Les métabolites seront en très faible concentration. En revanche, quelqu'un qui a consommé sa molécule 12 heures avant présentera une concentration plasmatique de la molécule mère très faible. On va conclure que la personne est peu intoxiquée. En revanche, si on regarde les produits de biotransformation, donc ces métabolites, eux pourraient être très abondants et révéler une intoxication massive qui n'apparaîtrait pas simplement en dosant la molécule mère, puisqu'elle a disparu, cette molécule mère. Vous comprenez ? Et donc là, il est très important maintenant de rechercher ces métabolites. Et enfin, un problème là de fond, médical, que peut faire le clinicien d'une liste de 6 ou 7 molécules en interaction mutuelle ? On sait très bien, et n'importe quel pharmacien vous le dira, et je suis pharmacien moi-même, donc je l'affirme, au-delà de 6 molécules, nous sommes incapables de prévoir le type d'interaction médicamenteuse qui peut survenir chez un patient. Incapable. Alors, a fortiori, le clinicien devant une personne intoxiquée par un cocktail de molécules eh bien, sera relativement impuissant. Et donc, c'est là où l'analyse toxicologique du poison pêche. C'est qu'à force d'augmenter la sensibilité de nos machines, à force d'augmenter l'exhaustivité de nos analyses, on arrive à des résultats qui deviennent complètement incompréhensibles et ingérables par le médecin. Et donc, il faut peut-être à ce niveau-là changer un tout petit peu de façon de voir. Alors, évidemment, dans un premier temps, il va être crucial de déceler les interactions pharmacocinétiques entre médicaments en dosant et les molécules et leurs métabolites. Ceci va être essentiel. Ensuite, il faudra caractériser et doser les molécules les plus prescrites et non plus seulement les plus toxiques. Et j'ai un exemple qui me vient à l'esprit immédiatement, qui est une personne qui est arrivée à l'hôpital il y a quelques mois de cela, avec une intoxication gravissime à la colchicine. Et cette personne, donc, en faisant l'anamnèse, alors l'anamnèse, c'est donc la collection de tous les renseignements que l'on peut avoir sur les conditions possibles de l'intoxication. Hein, donc, ce sont les boîtes à côté du lit, ce sont les prescriptions médicales, les témoignages des pompiers ou des gens du SAMU, etc. Et donc, d'après l'anamnèse, cette personne, effectivement, était retrouvée à son domicile, avec des diarrhées très importantes, enfin, des signes cliniques qui évoquaient tout de suite l'intoxication à la colchicine. On a retrouvé l'ordonnance du médecin, qui était tout à fait conforme, prescription de colchicine dans le cadre d'un lupus classique, à des doses tout à fait thérapeutiques, convenables. Toutefois, la patiente était très, très gravement intoxiquée. Et en fait, que s'est-il passé ? Eh bien, il se trouve que cette patiente avait consulter un autre médecin que son médecin habituel pour se faire prescrire sa colchicine, pour des raisons de congé, je crois, de son médecin traitant habituel, choses comme ça. Enfin, peu importe. En tout cas, elle avait omis une chose, c'est que cette personne était sous Prozac depuis 5 ans. Donc un antidépresseur, traitement antidépresseur au long cours, et elle demande ponctuellement un traitement à la colchicine. Il se trouve que la fluoxétine, qui est le principe actif du Prozac, est une molécule qui n'est absolument pas dangereuse par elle-même. On n'a jamais vu quelqu'un mourir à cause du Prozac, hein, ça n'existe pas. Et donc on ne va jamais rechercher la fluoxétine lors d'un screening toxicologique, évidemment. Ce n'est pas utile. Sauf que le Prozac inhibe l'enzyme qui métabolise la colchicine. Et par conséquent, la fluoxétine empêchait cette personne d'éliminer, comme elle aurait dû le faire normalement, sa colchicine. Et par conséquent, elle l'accumulait et elle a eu une intoxication massive à ce médicament et elle est morte au bout d'une semaine. Et là, la question qui se pose pour nous, quand même, c'est qu'est-ce que l'on fait ? Qu'est-ce qu'on va rechercher, doser, etc. Vous voyez ? Donc, c'est plus seulement le poison qui va nous intéresser, mais ce sont les interactions entre les poisons et par conséquent, ça va être la mesure des capacités individuelles de métabolisation par la patiente de ce médicament. Il faut être capable d'anticiper sur le fait que la patiente métabolise ou pas, est capable ou pas de métaboliser. Et cette métabolisation, s'agissant de médicaments et de façon plus générale de xénobiotiques, cette métabolisation, elle passe par des protéines particulières, des enzymes qu'on appelle les cytochromes P450. Ce qui vous est figuré sur le diagramme de droite, c'est le fait qu'à peu près 75% des médicaments passent par la voie de métabolisation, donc de biotransformation chimique par l'organisme, avant leur élimination. Sur ces 75% de molécules qui sont métabolisées, 75% de celles-ci sont métabolisées en premier lieu par les cytochromes P450. Donc ce sont vraiment des protéines qui jouent un rôle majeur dans la biotransformation des composés xénobiotiques. Et ce que vous avez sur la colonne de droite, ce sont tous les différents cytochromes qui existent, il existe de très nombreuses familles de cytochromes P450, qui chacun ont des spécificités plus ou moins élevées pour telle ou telle molécule, tel ou tel substrat. Et l'organisme, notamment le foie principalement, dispose d'un arsenal considérable de ces enzymes capables de transformer à peu près tout ce que l'on peut absorber. Donc ces cytochromes P450 sont essentiels pour, en quelque sorte, détoxifier l'organisme des molécules toxiques, à cela près que certains métabolites sont parfois plus toxiques que la molécule mère. Par conséquent, on est dans des contextes qui sont éventuellement assez délicats, et en tout cas, la question est-ce que telle personne est équivalente à telle autre personne quant à sa composition en cytochrome P450, donc quant à sa capacité à métaboliser, par conséquent, quant à sa sensibilité aux toxiques. Eh bien, la réponse est non, les gens ne sont pas égaux face aux effets toxiques des substances parce qu'elles ne sont pas égales quant à leur capacité de métaboliser, et notamment via les cytochromes P450. Donc ici, je vous ai simplement décrit très brièvement dans les cascades de métabolisation. Donc le xénobiotique, molécule extérieure à la vie, pénètre dans une cellule et subit donc des réactions de phase 1 par ces cytochromes qui sont des hydroxylations, des réductions, des époxydations, des désalkylations, toute une série de réactions diverses et variées, avant d'être engagé éventuellement dans des réactions de phase 2 et leur élimination. Donc les cytochromes sont en première ligne lorsqu'un xénobiotique va pénétrer une cellule hépatique. Et je prends ici l'exemple de l'un des cytochromes les plus importants, le cytochrome 2D6, qui métabolise à peu près 20% des médicaments. Ce qui vous est représenté sur un graphique ici, c'est la distribution de la population humaine quant à sa capacité de métaboliser les médicaments par ce cytochrome-là. Mais en réalité, il y a des variabilités génétiques chez les personnes qui font que le gène normal pourra être présent en 3 copies chez certains. Alors ceux-là métaboliseront extrêmement vite les médicaments. Des allèles ne conduiront à aucune espèce de protéine fonctionnelle, et dans ce cas-là, nous aurons des patients qui vont métaboliser pas du tout par ce cytochrome 2D6, et la majorité de la population sera ici dite métaboliseur rapide, donc métabolisera normalement. N'empêche que le patient, lorsqu'il arrive à l'hôpital, vous ne savez pas s'il ne métabolise pas du tout ou s'il métabolise ultra vite. On n'en a aucune idée. Donc le problème, il est là. Et le cytochrome 2D6, c'est précisément le cytochrome qui métabolise et la colchicine et la fluoxétine l'inhibant. Donc vous voyez que ce sont des choses qui ne sont pas anodines et que là, on dépasse très très largement le contexte du dosage du poison. Doser le poison, c'est une chose, c'est une indication clinique, c'est nécessaire à l'établissement du dossier du patient. Mais c'est très insuffisant quant à sa prise en charge pertinente en clinique et au long cours. Donc l'objectif que nous étions, que nous sommes fixés il y a quelques années était de mettre au point une méthode qui permettait de mesurer le niveau d'expression de cytochrome chez le patient, en d'autres termes, de faire des études de type protéomique, telles que celles qu'a montré Caroline Tokarski, avec une volonté de quantifier les choses, donc d'avoir des données quantifiables sur ces différents cytochromes. Donc la méthode que nous avons développée fait appel à la chromatographie liquide, notamment pour séparer entre les différents peptides de ces cytochromes. Donc nous avons utilisé une approche protéomique passant par la digestion des protéines en peptides, comme l'exposait Caroline. Donc une chromatographie liquide dans un premier temps pour les séparer, un spectromètre de masse ensuite pour les détecter, et enfin de la spectrométrie de masse en tandem, donc la fragmentation dont parlait Caroline, où un peptide va être fragmenté en différentes espèces, et ce procédé d'analyse nous permet d'avoir une spécificité en termes de temps de rétention chromatographique, une spécificité sur la masse du peptide qui va caractériser le cytochrome en question, et une spécificité sur les fragments qui dépendra de la séquence de ce peptide. Et avec ce type de spécificité-là, non seulement nous devenons très sensibles, nous avons un très bon rapport signal sur bruit, on élimine en gros tout ce qui ne correspond pas à ces différents critères, d'une part, et d'autre part, nous pouvons facilement quantifier en utilisant des étalons internes. Alors, la méthodologie, là je vais passer assez vite, hein, finalement, parce que nous avons travaillé dans différents organes, chez des patients, également dans des fluides biologiques. Donc, nous préparons les échantillons, nous extrayons les protéines, nous les digérons donc de façon enzymatique, nous utilisons la chromatographie liquide, la spectrométrie de masse, je passe. Et pour vous illustrer simplement les données dont on dispose dans ces cas-là, à gauche, vous avez le spectre donc MSMS de fragmentation d'un peptide caractéristique d'un cytochrome P450, le 1A2. Et puis à droite, vous avez ici le rendu quantitatif du résultat, le pic étant d'autant plus, ayant une surface d'autant plus importante que le peptide est abondant dans votre échantillon. Donc à gauche, caractérisation, et à droite, quantification. Alors ici, vous avez un mot qui est particulier, qui est protéotypique. Alors, protéotypique, en fait, Caroline ne l'a pas employé tout à l'heure, elle n'a pas voulu l'employer, lorsqu'elle vous parlait de différencier le collagène de différentes espèces animales. En fait, c'est ça le jeu. Hein, y a-t-il dans la séquence du collagène du lapin un peptide qui va caractériser que le lapin, et pas le poulet, et pas l'homme, et pas le bœuf, etc. Bon, là, c'est un peu la même chose. Je vais chercher dans tous les différents cytochromes P450, qui ont de très grandes homologies de séquences, le peptide, qui permettra de dire qu'il s'agit bien du cytochrome P450 1A2 et pas du 3A4 ou du D6, etc. Donc en fait, pour chacun des cytochromes P450 que l'on va étudier, eh bien, nous allons sélectionner un peptide protéotypique, donc caractéristique de cette protéine-là et uniquement de celle-là. Et nous avons donc établi une méthode pour, en une seule acquisition, pouvoir quantifier les cytochromes 2J2, 3A4, 2C9, 2D6, etc. Donc ce qui figure ici, c'est la valeur de masse du peptide précurseur caractéristique, filtré par le premier analyseur. Et ce qui figure ici, ce sont les fragments caractéristiques de ces peptides protéotypiques qui vont être sélectivement analysés par le second analyseur de masse dans une approche de spectrométrie de masse en tandem. Et ce qui figure ici en bas, c'est l'étalon interne. Alors je passe les étapes de validation. Vous pouvez être certain que nous avons validé ça sur une norme FDA. Nous avons des linéarités parfaites sur plusieurs ordres de grandeur. Et de cette façon-là, nous pouvons quantifier ces cytochromes P450. Là, je vous donnerai simplement un résultat concernant l'un de ces cytochromes, le 3A4, donc celui qui métabolise à peu près la moitié des médicaments. Et chaque échantillon ici correspond à un extrait de foie humain différent. Et vous voyez simplement à l'œil comme l'abondance de ce cytochrome 3A4 varie d'un patient à l'autre. C'est considérable. Celui-ci, par exemple, métabolise à peu près par le 3A4 20 fois plus efficacement que ce patient-ci. Et donc, il est absolument nécessaire de pouvoir quantifier ces cytochromes P450. Cela dit, la situation de cet homme-là n'est peut-être pas désespérée. Si jamais son cytochrome 2D6, lui, est très fortement exprimé, la spécificité des cytochromes n'étant pas absolue, on peut compenser l'un par l'autre. Mais en tout cas, ce sont des choses qu'il faut mesurer. Donc, c'était cela que je voulais vous dire hein, aujourd'hui. Donc, vous avez l'excentration exprimée en picomoles par milligramme. Et pour reprendre ce 3A4, vous voyez que les quantités minimales observées sont de 25 picomoles par milligramme de protéines jusqu'à 271, hein, il y a un facteur 10. Et ici, avec donc des coefficients de variation considérables d'une personne à l'autre. Donc, ces résultats sont actuellement sous presse dans Analytical and Bioanalytical Chemistry. Donc, retenez ceci, considérable variation interindividuelle en termes de capacité de métabolisation. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faudra faire de plus en plus, vous savez, lorsqu'une technique est disponible, qu'elle n'est pas chère et qu'elle est utile pour le patient, eh bien, il faut que cette technique soit transférée en milieu hospitalier. Par conséquent, c'est l'effort que nous allons faire très prochainement. Autre volet maintenant de l'exposé, pour le terminer d'ailleurs, c'est la toxicologie environnementale. La toxicologie environnementale, c'est un problème évidemment central dans nos sociétés contemporaines. Les scandales apparaissent presque de façon hebdomadaire dans la grande presse. Évidemment, cela cause beaucoup de soucis à beaucoup de gens, et le problème est extrêmement complexe. Et là aussi, l'expression n'est pas si simple du point de vue de la toxicologie analytique. Tout d'abord, pourquoi ? Parce que la pollution environnementale pose en soi un problème quantitatif. En effet, il y avait à peu près 1 million de tonnes qui avaient été déversées dans l'environnement en 1930, et on en est aujourd'hui à peu près à 400 millions de tonnes dans l'environnement. Donc, il y a en soi un problème de quantité de substances qui fait que le problème est effectivement grave et très sérieux, évidemment. Un problème qualitatif, ensuite. Il y a 60 000 substances chimiques différentes qui sont communément utilisées par l'espèce humaine. Donc, il y a une très grande diversité structurale qui dépasse largement, par exemple, le nombre des acides aminés qui est de 20 dans la nature. Bon, là, on est à 60 000 substances chimiques. Et puis, il y a aussi, pour l'analyste, un problème très sérieux qui est la dynamique de concentration. C'est que d'un composé à l'autre, vous avez une présence dans les autres surfaces. Il s'agit ici des autres surfaces, par exemple, qui varient considérablement d'un produit à l'autre. Les nitrates, par exemple, sont présents dans les autres surfaces dans l'ordre de milligrammes par litre. Les pesticides, de l'ordre du microgramme par litre. Il y a un facteur 10 puissance 3 entre les deux. Et puis enfin, les produits pharmaceutiques, les médicaments présents dans les eaux, vous savez, le fameux paracétamol qui est présent dans l'eau de boisson fréquemment. Donc, ces produits sont présents en concentration d'ordre du nanogramme par litre. Donc, 1 million de fois moins que les nitrates. Et il faut être capable, lorsqu'on analyse les produits dans les eaux, par exemple, ou dans les sols, ou les pesticides sur les fruits et légumes, des choses comme ça, être capable de tenir compte de cette dynamique de concentration. Et il faut donc, évidemment, les techniques appropriées. Donc, il est très important de caractériser et de doser les substances qui sont présentes dans l'environnement. Et vous verrez que ce n'est pas simple, puisqu'il y a donc cette diversité chimique. Alors, ce graphique ici vous indique la fréquence de détection de ces composés dans les eaux. Les stéroïdes sont présents dans 90% des cas. C'est la pilule, principalement. Les médicaments sans prescription, les répulsifs contre les insectes, les détergents, les plastifiants, les antibiotiques, je passe, etc. Donc, diversité considérable de sources de pollution de l'environnement, donc qui pose un problème d'analyse, bien sûr. Et puis, si on réduit simplement cette étude au seul cas des pesticides qui ont été recherchés en France, eh bien, on constate que ces pesticides vont être retrouvés dans 91% des points prélevés des eaux de surface et dans 55% des eaux souterraines, avec des concentrations très variables sur la carte géographique de la France, et puis également avec des diversités, là aussi chimiques, très importantes. Donc pour cette seule classe de pesticides, cela représente en soi un vrai défi analytique, évidemment, pour le toxicologue et le chimiste analyste qui s'intéresse à la toxicologie environnementale. Donc, nous sommes d'accord, il faut caractériser et doser les substances présentes dans l'environnement, avec toutefois un certain nombre de réserves. Tout d'abord, nous avons affaire, dans le cas de l'environnement, encore plus que dans le cas des médicaments dont j'ai parlé tout à l'heure, à des mélanges extrêmement complexes pour lesquels l'additivité des effets toxiques n'est pas pertinente. En d'autres termes, la molécule A est toxique au niveau de 1, la molécule B est toxique au niveau de 2, mais ça veut dire que l'ensemble est toxique au niveau 3. On n'en sait rien. Des effets de synergie peuvent exister, des effets d'antagonisme peuvent exister. On est incapable de pouvoir évaluer la toxicité globale d'un mélange aussi complexe. Premier problème. Deuxième problème, le problème des faibles doses. À très faible dose, le paradigme de Paracels, la dose fait le poison, n'est plus pertinent. On est très, très largement en deçà des doses toxiques, toxiques en termes de toxicité aiguë. Évidemment, Paracels faisait allusion à une personne qui va ingérer une quantité massive de produits. Là, on a affaire à des doses qui sont infimes et en fait à des toxicités qui vont être liées à des expositions à très long terme, pendant des dizaines d'années. Qu'est-ce qui est la cause moléculaire de la perte de fertilité du sperme humain ? Moins de 50% de fertilité en 50 ans. Bon. Voilà, c'est ça. C'est le fruit de dizaines d'années, peut-être, d'exposition à des polluants environnementaux ou à des habitudes alimentaires différentes ou à des pratiques, physiques différentes. Tas de paramètres dans lesquels il est impossible d'aller rechercher les choses de façon simple. Donc, cette dose n'existe pas. Et donc, ce problème d'exposition à très long terme est par ailleurs non évaluable sur les modèles animaux. Nous n'avons pas de modèles animaux qui vivent 40 ans ou 50 ans. Ça n'existe pas. Confère, par exemple, l'étude sur les OGM qui a fait débat l'an passé, qui posait des problèmes de modèles animaux. Et puis enfin, pire que tout, que faire de liste de substances de type inventaire à la Prévert ? Je parlais tout à l'heure de la perplexité de cliniciens à qui on donne une liste de 6 médicaments avec des doses en face, ils ne savent pas qu'en faire. Lorsqu'on fait une étude qui fait grand bruit dans la presse, bien sûr, où on prélève du plasma de 50 députés européens et on dit que chez ces députés, il y a 150, jusqu'à 150 molécules différentes dans leur plasma, dont des perturbateurs endocriniens, etc., on pousse des hauts cris. On pousse des hauts cris parce que c'est impressionnant, c'est une grande liste, mais qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est risqué ou pas? Est-ce que c'est dangereux ou pas? On ne sait pas à cause de ce qui précède. Donc il y a une seule, du point de vue du toxicologue en tout cas, un seul moyen de prendre des décisions de façon convenable, c'est de coupler les données analytiques avec l'épidémiologie et dire qu'effectivement, dans une population qui va être exposée à telle et telle substance, on observe l'augmentation de la fréquence de telle et telle pathologie, ce qui suppose tel et tel mécanisme, telle et telle responsabilité. C'est ceci qu'il faut faire, toujours. Sinon, publier des listes ne présente strictement aucun intérêt. Est-ce que les députés européens sont plus malades que les autres? Pas forcément. Peut-être que oui, il y a un monsieur qui hoche la tête en disant oui. Et puis surtout, peut-être plus important encore, il faut coupler les données analytiques avec les marqueurs d'effet chez l'homme empoisonné. Et là, je prends le cas d'un fumeur à qui vous dites « Monsieur, vous devriez arrêter de fumer parce que les études épidémiologiques montrent que vous augmentez votre chance d'avoir un cancer du poumon d'un facteur 8. » Ce monsieur vous répondra s'il n'a pas envie d'arrêter de fumer. Certes, mais je connais un homme qui a 95 ans, qui a fumé toute sa vie, qui se porte comme un charme. En revanche, je connais une personne qui a 50 ans, qui a fait un cancer du poumon sans avoir jamais fumé. Ça arrive. Bien. En revanche, si on est capable d'avoir des marqueurs d'effet, c'est-à-dire de dire, attention, ce qui est intéressant, ce n'est pas le tabac, finalement. C'est la façon dont l'organisme va réagir au tabac. Et si on est capable de mettre en évidence, dans la personne, un marqueur de risque, attention, vous réagissez mal. Donc à vous, je vous demande d'arrêter de fumer. Par contre, le monsieur qui était là avant vous, qui fume comme vous, lui, je le laisse fumer allègrement parce que tout se passe très très bien, son organisme réagit parfaitement, il n'y a aucun marqueur de risque potentiel. Ça change complètement la donne pour les médecins, pour les patients, pour la sécurité sociale, pour les assurances, tout un tas de personnes concernées. Donc ceci, c'est extrêmement crucial. Ce qui est important, enfin bon, si on n'est pas capable de modéliser les mélanges complexes, les toxicités à long terme, les faibles doses, pourquoi s'acharner à le faire? Peut-être qu'on a intérêt à travailler davantage au niveau des marqueurs d'effet des toxiques. Et ces marqueurs d'effet, eh bien, fera le lien avec ce qui a été présenté auparavant par Paul Dumas et Caroline Tokarski, ce sont par exemple les lipides. Parmi les effets qu'un organisme peut subir lorsqu'il est exposé à des toxiques, eh bien, il y a des perturbations métaboliques. Les voies métaboliques classiques sont altérées. Et si on regarde un tout petit peu la composition métabolique, ben, la composition en lipides, par exemple, d'un foie humain, un foie stéatosé, la stéatose est une conséquence d'événements toxiques également, eh bien, on peut éventuellement avoir des marqueurs d'alerte. Attention, la personne effectivement est intoxiquée, la personne présente des risques. Et nous avons travaillé sur ce sujet, sur les phtalates. Les phtalates, notamment, qui sont bien connus comme des plastifiants, comme des adjuvants des plastiques, se rencontrent un peu partout, et le principal d'entre eux, c'est le DEHP, donc le diéthylexylphtalate, lequel est métabolisé par l'organisme en monoéthylexylphtalate. Et en fait, la substance toxique, ce n'est pas la molécule principale, c'est le métabolite. Et ce métabolite-ci, donc le MEHP, est connu de façon absolument indubitable comme étant un perturbateur endocrinien, qui exerce des effets qui sont tout à fait connus par l'épidémiologie et par la clinique comme étant délétères sur les fonctions de reproduction et de développement. Et ces produits agissent en se liant à un récepteur nucléaire qui s'appelle les récepteurs activés par les proliférateurs de peroxysomes ou PIPAR. Donc ce composé se lie à un récepteur nucléaire, ce récepteur va se lier à l'ADN sur des séquences spécifiques de l'ADN, et les gènes à proximité donc, vont être exprimés et vont conduire donc aux effets délétères. Alors nous nous sommes intéressés à PIPAR, pourquoi? Parce que l'un d'entre eux, l'un de ces récepteurs nucléaires, récepteur au phtalate, est fortement exprimé dans le placenta humain, et non seulement il est fortement exprimé dans le placenta humain, mais en plus son activation est nécessaire aux étapes initiales de la placentation. Donc on a affaire à un cas tout à fait étonnant où un récepteur nucléaire, dont on sait que son activation est délétère pour l'organisme, devient essentiel au développement initial du placenta. En fait, il va conduire à l'invasion des trophoblastes dans l'endomètre de la mère qui permettra de l'ancrage du placenta. Donc ceci est décisif. Et par ailleurs, on sait que ce PPAR gamma joue un rôle très important dans le métabolisme lipidique placentaire et pas seulement placentaire d'ailleurs. Donc là, ce que l'on va essayer de faire, c'est d'essayer d'évaluer sur des cellules placentaires d'abord et sur du placenta humain ensuite qui nous est fourni par la Fondation Premup, grâce à des femmes consentantes qui offrent leur placenta à la science après avoir accouché ou après un avortement, une IVG. Eh bien, nous allons étudier éventuellement des altérations du lipidome, donc de la composition lipidique qui serait liée à cette exposition au phtalate. Alors, nous avons, je ne vais pas rester là-dessus, donc nous avons évidemment mis au point une méthode de dosage du phtalate sur ces échantillons, hein, cela va de soi, aussi bien sur les cultures cellulaires que sur les placentas. Là aussi, faisant appel à la spectrométrie de masse. Et puis, nous avons effectué une analyse donc, des lipides de ces cellules placentaires, en procédant tout d'abord par une extraction liquide de ces lipides. Ensuite, nous les analysons par couplage chromatographie et spectrométrie de masse à haute résolution. Donc, nous obtenons ainsi des chromatogrammes, classiquement, comme ce qu'a présenté Caroline tout à l'heure. Hein. Et ces chromatogrammes, ensuite, donc, sont analysés par spectrométrie de masse et font l'objet d'analyses statistiques, sur lesquelles je reviendrai tout juste après. Alors, justement, du point de vue des statistiques, les données dont on dispose, ce sont des chromatogrammes bruts. Alors, pour ce type d'étude, pour voir des perturbations assez fines sur des compositions lipidiques, il faut travailler généralement en comparant deux conditions, donc les cellules normales et puis les cellules exposées aux toxiques, et ceci sur une quinzaine ou vingtaine d'échantillons à chaque fois, différents bien sûr, plus les contrôles de qualité, etc. Donc nous disposons d'une centaine peut-être de chromatogrammes de ce type. Ces chromatogrammes ensuite sont réalignés pour les comparer entre eux, ils sont normalisés en intensité, etc., donc à l'aide de différents systèmes. Et à l'issue de cette moulinette, eh bien, nous déterminons un certain nombre de variables. En fait, ces variables correspondent à autant de signaux détectés. Donc, en fait, ces variables sont concrètement des couples entre temps de rétention et valeur de masse observée sur les spectres de masse. Ce sont ça les variables. Et vous avez donc 4285 signaux détectés en électrospray positif, 1150 en négatif. Donc, ce sont les lignes d'un grand tableau Excel, autre chose que ça. À chacune de ces variables, bien sûr, est associée une valeur d'intensité. Est-ce que c'est abondant ou pas abondant ? Et ce sont donc ces critères quantitatifs que l'on va étudier pour comparer entre eux les différents échantillons. Donc ici, nous avons travaillé avec 2 fois 20 échantillons, plus des contrôles de qualité, etc. Et nous faisons mouliner ensuite, après normalisation, un certain nombre de logiciels, donc pour faire de l'analyse statistique multivariée. Et puis après, nous identifions les variables qui sont responsables des différences entre les échantillons. Et in fine, nous les validons dans des approches univariées. Alors, je vais illustrer ça rapidement. Donc, sur cette affaire d'exposition au phtalate, nous avons d'abord fait une analyse statistique multivariée non supervisée. C'est-à-dire qu'on fait comme si on ne savait pas si les échantillons étaient exposés ou pas au phtalate. Nous allons à l'aveugle regarder si ces échantillons sont différents entre eux. Et effectivement, ce que l'on constate, c'est qu'il y a ici un axe qui correspond à un paramètre particulier qui fait que les échantillons traités diffèrent des échantillons contrôle. En d'autres termes, cela veut dire que la composition lipidique des échantillons traités diffère de celle des échantillons contrôle. Ce qui veut dire que l'exposition au phtalate a un impact sur la composition lipidique des cellules placentaires. Ceci, c'est un premier défrichage. Je veux dire. On ne sait pas du tout qu'est-ce qui est responsable de cette différence, hein, pas encore. Mais ensuite, on va aller plus loin et on va dire, bon, maintenant que je vois que mes lots sont effectivement différents l'un de l'autre, traités, pas traités, eh bien maintenant, je vais injecter dans mon système d'analyse statistique le fait que je sais à quel échantillon j'ai affaire. Et par conséquent, je serai cette fois-ci en mode dit supervisé. Et là, je sais que j'ai des échantillons qui sont traités par le phtalate, d'autres qui sont contrôles. Et donc, je vois ici qu'il y a une séparation nette entre le groupe bleu et le groupe vert. Donc, il va séparer les deux classes différentes. Au sein de chaque groupe, eh bien, nous avons une variation interindividuelle. Tout simplement. Donc, une fois qu'on a fait ça, eh bien, quelles sont les variables, donc quels sont les lipides qui sont responsables de cette différenciation entre les échantillons ? Eh bien, c'est ce que nous faisons ici à l'aide de ce type de graphique, où en fait les variables les plus extrêmes ici sont celles qui sont les plus significatives sur le plan statistique ou celles qui pèsent le plus dans le modèle statistique et par conséquent ce sont elles qui sont sélectionnées. Alors chaque point en fait c'est un couple temps de rétention, valeur de masse, hein, toujours pareil, sont les variables. Et lorsqu'on les sélectionne, nous les identifions, nous faisons quand même de la spectrométrie de masse, hein, de la MSMS en haute résolution, donc nous sommes capables de dire à quel lipide correspond ce petit point vert ici et nous identifions ainsi 65 lipides qui discriminent les groupes donc, traités par rapport au groupe contrôle, et 56 d'entre eux, après analyse univariée, montrent effectivement des différences d'abondance tout à fait significatives. Alors, les résultats apparaissent sous forme de tableau. Donc, plusieurs classes de lipides sont concernées. Ce qui figure ici en rouge, ce sont les classes de lipides pour lesquelles on observe une augmentation. Et les grands leaders de cette étude, ce sont les triglycérides, donc le lien avec l'étude qui précède. En effet, pour 18 triglycérides différents, nous observons une augmentation moyenne d'un facteur 1,6, donc qui correspond à une augmentation de 51%. Et on voit également des différences tout à fait significatives, mais d'importance moindre en termes de variation d'abondance pour d'autres classes, telles que les phosphatidylethanolamines ou les phosphatidylcholines. Donc, si 7 lipides différents, 6 lipides différents. Et puis, d'autres classes sont affectés à la baisse, cette fois-ci, donc moins abondants dans les échantillons traités par rapport aux échantillons contrôle. Et en fait, lorsqu'on prend l'ensemble, on constate que ce sont presque toutes les familles de lipides qui sont concernées par ces variations de lipidome. Et donc, l'exposition au phtalate, sur ces cellules placentaires, a un impact majeur sur sa composition de lipidome. Donc, ce que l'on fera après, hein, puisque ceci a une suite, bien sûr, c'est que nous avons maintenant cette liste de marqueurs potentiels d'exposition au phtalate. Nous allons les rechercher dans un premier temps sur des cultures primaires de cellules isolées de placenta et mises en culture, et ensuite sur les placentas correspondants des mamans, chez lesquelles on aura à côté un dossier clinique extrêmement complet, expliquant toutes les éventuelles expositions au phtalate que l'on connaît, expositions en plastique, consommation des boîtes de conserve, cosmétiques, etc. Et on va essayer de coupler donc, ces marqueurs avec ces expositions au phtalate. Donc là, vous voyez, on a dosé le poison, évidemment, on dose le phtalate hein, dans ces placentas, ça va de soi, évidemment. Mais on ne s'arrête pas là. On va essayer de caractériser, effectivement, ces marqueurs potentiels chez les mamans, dans le but de prévenir, après, des impacts délétères sur la croissance de l'enfant. Enfin, pour terminer, dernier exemple, déchiffrer le code histone. Alors, il y a une bonne blague que je vous montrerai à la fin, qui dit que lorsqu'on ne sait pas quelles sont les raisons d'un phénomène physiologique, on dit « c'est l'épigénétique ». Comme ça, on est quitte. C'est comme en médecine, c'est-à-dire quand on ne sait pas trop la cause de maladie, assez fréquemment, on dit « ça, ça doit être une maladie auto-immune. C'est propre à la personne, c'est spécial, c'est des trucs un peu... Pas... » Bon, voilà, ben, l'épigénétique. Alors, l'épigénétique, ça passe en particulier par les histones. Et effectivement, l'épigénétique est très, très intéressante. Alors, ce n'est pas une notion nouvelle, l'épigénétique, elle date de 1942, hein, de Chris Waddington. Et l'épigénétique, c'est quoi? C'est simplement le fait que le génome existe, certes, mais ce qui est important, c'est l'expression des gènes de ce génome. Et que cette expression des gènes peut être régulée sans qu'il y ait modification de la séquence d'ADN. En d'autres termes, un génome, les gènes, c'est ce qui pourrait se faire. Mais le gène ne devient intéressant qu'à partir du moment où il s'exprime et est transcrit en ARN messager, puis traduit en protéine. Et il se trouve que la façon dont les gènes vont être transcrits en ARN messager dépend de tout un tas de facteurs, notamment les facteurs épigénétiques. Et ces facteurs épigénétiques correspondent à des entités moléculaires tout à fait bien définies, connues. En tout cas, pour l'instant, il y en a trois qui sont parfaitement bien identifiées. Ce sont, par exemple, des modifications des bases de l'ADN par des méthylations. Ce sont, par exemple, la production de micro-ARN messagers qui vont, en fait, s'hybrider avec les ARN messagers et, par conséquent, qui vont stopper la possibilité de traduire l'ARN messager en protéines, par exemple. Et ce sont les histones. Et donc, pour un génome donné, on pourra avoir toute une série de phénotypes tout à fait différents qui correspondent, en fait, à l'impact épigénétique sur l'expression de ces gènes. Donc, l'épigénome, c'est quoi? Eh bien, c'est la question que l'on va se poser. Quels gènes sont exprimés au temps T dans une cellule donnée et dans des conditions environnementales déterminées? Et il se trouve que ces expressions de gènes sont perturbées dans de très nombreuses pathologies chroniques, telles que les cancers, par exemple, les maladies neurodégénératives, etc. Et l'environnement joue un rôle déterminant dans l'épigénome. Déterminant. Et l'environnement, je ne parle pas uniquement de la pollution environnementale, pour le coup, mais aussi les conditions de vie, les habitudes alimentaires, les addictions potentielles, le fait de faire du sport ou pas, le fait de rester assis, etc. Ça joue un rôle tout à fait important. Alors, parmi ces trois structures moléculaires, donc les histones. Les histones sont des protéines qui sont associées par groupe de 4, donc il existe différentes formes, les formes dites H2A, 2B, 3, 4, etc., mais qui sont groupées par groupe de 4, comme une bobine de fil, et ce qu'on appelle le nucléosome, et c'est autour de cette bobine de fil, donc formée par ces 4 protéines, que s'enroule l'ADN. Et il faut imaginer une chose simple, que si les histones sont très compactes, l'ADN est enroulé très finement et les gènes ne sont pas transcrits, ne sont pas lus. En revanche, si les histones se dilatent, se relâchent un tout petit peu, à ce moment-là, l'ADN devient beaucoup plus accessible à la lecture et le gène sera transcrit. Et ce qui fait que l'histone va être compacté ou dilaté, eh bien, sera lié à des modifications covalentes, chimiques, qui seront faites sur ces histones, ce qu'on appelle les modifications post-traductionnelles. Et l'organisme, les cellules, ont toute une batterie d'enzymes capables de modifier de façon covalente ces histones. Et ce seront, par exemple, des acétylations, des méthylations, des phosphorylations, etc., j'en passe, et des meilleurs. Ceci se fera sur toutes les formes d'histones possibles. Et ce qui vous est représenté ici à droite, c'est en bleu, par exemple, l'acétylation. Eh bien, tous les points bleus sont les sites possibles où une acétylation peut avoir lieu. En rouge, une phosphorylation. Et donc, vous avez toute une combinatoire extraordinaire qui se traduit en fait par des millions de possibilités des modifications post-traditionnelles de ces histones, par ces différentes modifications. Évidemment, Là, je reprends ce que présentait tout à l'heure Caroline, c'est que si jamais on va décider de faire de la protéomique classique, donc de digérer les enzymes en peptides, etc., on aura un peptide avec un acétate, mais on ne saura pas si ça vient de l'histone A ou l'histone B, tellement l'homogénéité de séquence est grande. Si on mesure un nombre global d'acétylations, est-ce que c'est sur la lysine 6 ou sur la lysine 10 ou sur la lysine 17, on ne saura pas non plus, pas simple. Donc, de toute façon, on va perdre l'information combinatoire si on passe par la case peptide. Donc, il faut impérativement travailler sur les protéines entières cette fois-ci, qui vont nous donner une idée de ce qui va être modifié de façon covalente par les histones. Alors là, on a donc un protocole qui correspond à peu près à ce que je vous ai montré pour la lipidomique. Nous avons effectivement des échantillons, donc témoins versus exposés aux toxiques. Nous séparons les protéines entières cette fois-ci donc par HPLC couplé à la spectrométrie de masse. Nous obtenons une variable de matrice, maintenant vous connaissez ça très bien, qu'on va étudier donc par analyse multivariée. Et une fois que les espèces responsables de la discrimination seront bien identifiées, nous allons les valider par des approches statistiques univariées. Donc ceci se fait avec une source UPLC, un cutoff et les données. Donc ici, c'est un chromatogramme. Et ce que je vous représente ici, ce sont les données, les vraies données en trois dimensions. Une valeur de temps de rétention dans ce sens-là, une valeur de masse dans ce sens-là, et une valeur d'intensité dans la troisième dimension. C'est ceci qui va être traité en analyse statistique. Donc deux exemples, tout simplement. Tout d'abord, validation de la méthode sur un modèle bien connu de modification d'histone. Il s'agit du butyrate de sodium. Le butyrate de sodium, c'est une substance qui va inhiber les histones déacétylases. Les histones déacétylases, comme le nom l'indique, elles vont désacétyler les histones. Donc si on inhibe ces désacétylations, on aura des histones qui seront davantage acétylées pour le coup. Donc ça, c'est un modèle qui est bien connu, et on va travailler là-dessus, avec deux doses différentes du butyrate de sodium, et puis évidemment avec le milieu de culture comme étant le témoin interne, le contrôle. Et une fois que ceci sera validé, eh bien, nous passerons à l'étude du benzopyrène, sur des cellules placentaires, toujours la toxicologie placentaire, je vous dirai après pourquoi le benzopyrène également, si vous le souhaitez. Donc le benzopyrène, qui est un polluant chimique génotoxique, hein, on sait que ça provoque des cancers, en s'additionnant à l'ADN, et donc le benzopyrène a été travaillé à des expositions de l'ordre de 1 micromolaire. Alors une fois que l'étude est faite, donc, je vais directement au résultat, comme ça ce sera plus rapide, hein. J'ai bientôt fini de toute façon. Donc avec le butyrate de sodium, ce qui vous est représenté ici en rouge, ce sont les différents échantillons contrôle, donc chaque ligne correspond à un échantillon contrôle. Ce qui est vert, ce sont les histones qui sont sous-exprimées. Ce qui est rouge, ce sont les histones qui sont surexprimées. Et on voit très bien qu'entre le contrôle et puis le butyrate de sodium à haute dose, nous avons une inversion sur ces deux paramètres. Donc là, les variables sont discriminantes, pas de problème, on sait que ça va marcher. Et heureusement pour nous, pour le butyrate de sodium à faible dose, donc, eh bien, on voit un comportement intermédiaire entre ces deux états-ci, puisque les variations sont beaucoup plus faibles, c'est normal. La dose du butyrate de sodium est plus faible, par conséquent, les variations sont plus faibles. Nous avons un effet dose qui nous rassure par rapport au modèle expérimental. Donc nous passons aux analyses non supervisées, ça marche bien, on sépare très bien les échantillons contrôle, des échantillons donc à faible dose et des échantillons à forte dose, on les sépare très bien. Et en mode supervisé, ça marche encore mieux, là on a une séparation magnifique, avec des p-values de l'ordre de 10-15, hein, pour ceux qui aiment bien les statistiques, ce sont des choses tout à fait valables. On teste bien le modèle statistique avec d'autres échantillons complémentaires, et ceci fonctionne. Et simplement pour vous montrer sur quoi on arrive finalement à la fin, sur une étude de ce type, eh bien, c'est que nous avons ici, dans cette colonne-ci, les identifications des histones, la forme H2A, avec deux isoformes différentes, la 1BE, l'H2B, la forme 1K, l'H2B, la forme 1M, c'est énormément d'isoformes de protéines, d'homologie de séquence, hein, c'est très compliqué aussi au niveau séquence peptidique. Ici, l'histone H4, et ce qui est présent ici en rouge, eh bien, ce sont les histones qui sont surexprimées dans le modèle exposé au butyrate de sodium, et ça tombe bien, ce sont les formes acétylées qui augmentent, aussi bien pour les histones H2B, ce qui était connu, que pour les histones H4, ce qui n'était pas connu. Une petite incidente en passant, lorsque l'on va utiliser une méthode faisant appel à l'immunochimie, comme l'a très bien dit Paul Dumas tout à l'heure, on connaît ce que l'on va chercher, ce que l'on va doser. L'immuno, c'est ça. On sait que telle protéine est exprimée dans telle condition, on utilise un anticorps pour aller la doser. Avec ces approches-là, de type lipidomique ou protéomique non ciblée, nous avons une démarche qui est totalement innocente. On ne sait pas ce qu'on va trouver à la sortie. Ce qui nous place quand même dans les meilleures conditions pour trouver des choses originales, hein, cela dit en passant, ce qui est assez utile en science. Donc la méthode est totalement validée, et nous l'avons appliquée au benzopyrène. Là, je ferai juste un petit aparté si Philippe Walter me laisse une minute. C'est que le placenta humain est un organe extraordinaire et unique. En toxicologie, on s'est intéressé jusqu'à présent aux poisons essentiellement, et par conséquent, Par rapport à une toxicité fœtale, on s'est intéressé au fait que le poison traversait ou pas le placenta de la maman et allait contaminer ou pas l'embryon puis le fœtus. Bien. En fait, en toxicologie, je dirais moderne, la question n'est pas forcément que là. Le placenta, ce n'est pas une barrière, c'est un organe. Un organe qui a des fonctions endocrines, qui a des fonctions physiologiques, et qui par conséquent peut être une cible dans son fonctionnement même pour les toxiques. Et l'altération du fonctionnement de cet organe peut se traduire, par contre-coup, par une altération du développement de l'embryon et du fœtus. Vous voyez ? Mais réduire la problématique de la toxicologie placentaire à une barrière et ça passe ou ça passe pas, ce n'est pas suffisant. Et il se trouve que le placenta humain présente cette capacité extraordinaire, c'est qu'il se développe pendant les 10 premières semaines d'aménorrhée, il se développe dans des conditions d'hypoxie sévère. Le fœtus, l'embryon, n'est pas ou très peu oxygéné par le sang de la mère, puisqu'il y a des bouchons qui bouchent les artères maternelles, et par conséquent, le placenta se développe en hypoxie. Alors, on peut faire un peu de philosophie du comptoir du commerce. On dit pourquoi ? Parce que l'oxygène est un poison violent. C'est le poison du vieillissement, c'est l'agent oxydant par excellence. Donc, en protégeant l'embryon dans les phases initiales de développement de ses organes, de l'organogénèse, de l'oxygène, on le protège. Vous voyez ? Deuxième remarque, le benzopyrène. Le benzopyrène, ce fameux HAP, ce polluant environnemental, se lie à un récepteur nucléaire, lui aussi, AHR, qui doit être absolument activé pour que là aussi, le placenta développe ses fonctions, ses fonctions physiologiques et notamment de sécrétion hormonale. C'est étonnant. Ce récepteur nucléaire, qui est délétère dans tous les autres cas, bien, son activation est nécessaire dans le placenta pour réaliser la sécrétion de l'hormone chorionique gonadotropique. Et il se trouve que le benzopyrène est un activateur de ce récepteur nucléaire. Et le benzopyrène, il est toxique. Pourquoi ? Parce qu'il sera métabolisé par métabolisation oxydante, et c'est le métabolite oxydé qui va se lier à l'ADN et provoquer les cancers. Et bien, dans la cellule placentaire, le benzopyrène active le récepteur nucléaire, facilite la physiologie placentaire, mais n'est pas oxydé parce qu'il n'y a pas d'oxygène. Remarquable. Et unique dans le monde animal, puisqu'il n'existe pas, même chez le singe, il n'existe aucun mammifère qui présente cette particularité-là, qui est propre à l'espèce humaine, qui est ce développement en hypoxie. Enfin, c'est une aparté, mais c'est ce qui justifie, si vous voulez, le pourquoi de l'intérêt de ces polluants environnementaux sur les récepteurs nucléaires de ces cellules placentaires. Et là, effectivement, je vous présente vraiment ces... J'ai osé le faire aujourd'hui, je ne le fais pas d'habitude, mais j'ai osé le faire aujourd'hui. Donc effectivement, le benzopyrène sur les cellules placentaires provoque une différence extrêmement nette de distribution entre les cellules traitées et non traitées. Et nous avons identifié, sans coup férir, la modification apportée aux histones. En l'occurrence, c'est une isoforme de l'histone H2A, la H2AZ, dont on voit qu'elle est acétylée de façon préférentielle après exposition au benzopyrène. Donc l'enzyme nu, entre guillemets, diminue en abondance et augmente quant à sa forme acétylée. Nous avons donc ici une corrélation tout à fait excellente avec une performance en termes de significativité excellente puisque l'air sous la courbe est de 0,98. Donc, nous avons identifié bien le bon marqueur. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, en conclusion, brièvement, en toxicologie analytique, la caractérisation du dosage des toxiques restera toujours évidemment nécessaire. Mais ils devront s'accompagner de la caractérisation des biomarqueurs d'effet. Ce qui est important, c'est l'effet chez le patient, c'est l'effet chez la personne qui est exposée à un environnement délétère. Donc ces effets seront mesurés au niveau métabolique, par exemple des lipides, mais seront mesurés également au niveau enzymatique, au niveau épigénétique, etc. L'enjeu derrière cela, c'est de raccorder tous les éléments ensemble, la protéomique, la lipidomique, la métabolomique, la génomique, l'épigénomique, et c'est tout l'enjeu actuel de la biologie intégrative ou de la biologie des systèmes. Donc les enjeux futurs, c'est d'être capable de mesurer, d'anticiper les risques à l'échelle des populations, et donc de passer d'une épidémiologie descriptive, tant d'augmentation de telles pathologies, à une épidémiologie moléculaire, tant d'occurrence de tels biomarqueurs dans telle population. Et puis, in fine, une fois qu'on disposera de ces données à l'échelle moléculaire, il s'agira d'anticiper et de mesurer les risques, à l'échelle individuelle bien sûr, parce qu'une fois qu'on dispose des biomarqueurs, eh bien on peut aller les rechercher chez vous. Mais là, attention, et je vais terminer juste là-dessus, attention à ce que l'on fait. Si vous allez demander un emprunt et que vous étiez une cinquantaine, certes en bonne santé, mais quand même, vous avez comme 50 ans, vous allez à votre banque, on va vous dire, eh bien, cher monsieur, pour l'assurance de votre emprunt, vous passerez un certain nombre de tests biologiques, si vous voulez bien, et par conséquent, on va examiner les gamma GT, qui ne sont rien d'autre que des biomarqueurs d'effet de toxicité hépatique liés, par exemple, à la consommation d'alcool. Voilà. Sauf que si vous vous êtes cassé la cheville au sport d'hiver et que vous avez mangé du paracétamol à haute dose, vous aurez des gamma GT qui vont être extrêmement élevés et votre emprunt vous coûtera extrêmement cher alors que tout simplement vous avez fait une chute de ski et vous n'êtes absolument pas consommateur d'alcool. Donc attention, ces biomarqueurs-là, on sait très bien que c'est vers là qu'il faut aller pour la prise en charge des patients et pour la prise en compte des risques au niveau des populations. Mais attention, là, le citoyen, et pas le scientifique, pas le chimiste analyste, le citoyen est responsable de ce qu'il fera de ce développement scientifique. Donc pour finir, je voudrais remercier les collaborateurs de mon équipe à la faculté de pharmacie, donc Sylvie Gillet, Nicolas Ozeil principalement, les doctorants, Raphaël Bilgrère, Julia Petit, Justine Lanzini, une EM2, Nostra Ousedi, qui a très bien travaillé en métabolomique, Danielle Evin-Brion, la fondatrice de la fondation PREMUP, qui a eu un financement Equipex par l'État donc pour faire un énorme travail au niveau de la périnatalité, et donc avec une travaillance sur les questions de toxicologie placentaire. Mes collègues Philippe Beaune, Marianne Loriot, Isabelle Devasier et Ahmad Alali de l'école des Saint-Père, donc de l'UFA biomédicale des Saint-Père, avec qui nous avons travaillé sur les cytochromes P450. Et enfin, mes collègues Alain Brunel, David Touboul, Jean-Pierre Lecaire et Isabelle Schmitz-Afonso, avec qui je reste en collaboration très étroite pour les aspects notamment de protéomique. Et je vous remercie vous-même pour votre attention.